L'entrepreneuriat, c'est pas si différent des Lego. On a un potentiel illimité de petites pièces à disposition. Il faut juste prendre le temps de définir ce qu'on veut en faire. Et il n'y a plus qu'à s'y coller en empilant les briques.
Shortcut, 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 shortcut.
Ton raccourci vers l'indépendance.
Comment ont-ils pu bâtir de tels édifices ?
En empilant les pierres les unes sur les autres.
Effectivement.
Donc trouvez votre why, même si on déteste ce mot parce qu'il est trop utilisé. Ayez une vision commune et vous allez voir que vos activités vont servir les unes aux autres et créer des cercles de croissance.
Je m'appelle Cédric Costa. Je me suis lancé en freelance en 2017. Et je peux te dire que c'était la meilleure décision professionnelle de ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Aujourd'hui, je reçois une star du web. Elle est connue pour sa boîte Richmaker, son podcast Marketing Square, son nouveau projet Refer, son influence sur YouTube, LinkedIn et bientôt d'autres réseaux. Dans cet épisode, je vais volontairement te complexer un peu en démarrant avec sa success story, puis on décortiquera les différentes étapes qui lui ont permis d'en arriver là. Tu l'auras compris, il s'agit de Caroline Mignot et elle est dans Shortcut.
Alors déjà, qui est Caroline ? Je suis une entrepreneure de 31 ans qui a passé presque 9 ans aux États-Unis à faire du gross marketing, c'est-à-dire du marketing très orienté performance et rendement sur du coup tout le cycle de vie d'un client. Donc j'ai fait à la fois des relations presse, à la fois du partenariat, du marketing, de la vente, du produit. Donc en fait, le gross marketing, il guérit une compagnie partout où elle a mal et j'étais complètement passionnée par ce sujet et c'est ça qui m'a menée à devenir entrepreneur du coup il y a 2 ans à mon retour en France où je me suis dit le partenariat, c'est complètement sous-documenté, sous-outillé. Aujourd'hui, tout le monde sait que ça a de l'impact mais personne ne sait trop par quel bout le prendre, comment faire un partenariat entre marques, comment est-ce qu'on peut identifier le bon partenaire. Donc j'ai lancé Richmaker qui est un peu une plateforme de rencontre entre business. Et l'idée, c'est qu'on a un algorithme intelligent qui va automatiquement agréger vos données d'entreprise. Mais quand je dis entreprise, ça peut être des indépendants, par exemple, ça peut être des petits médias. J'ai plein de podcasteurs, par exemple, sur la plateforme. Et en fait, on va dire, OK, par rapport à ce que tu es toi, à l'audience que tu as, à tes enjeux marketing, à qui tu devrais parler pour aller croiser tes audiences au lieu de les acheter avec de la pub. Donc, on a créé cette plateforme qui est un peu Tinder version B2B. Et en fait, ça m'a amené d'autres projets. Alors du coup, le deuxième autre projet, ça a été que pour lancer ma boîte, par exemplarité, comme je parle que de croissance organique, donc de croissance non payante, j'ai dû trouver des moyens malins d'aller chercher de la croissance autrement que de faire de la pub. Sauf que j'avais pas de réseau, je venais de rentrer en France, donc j'avais un réseau complètement anglophone. J'avais pas beaucoup de copains non plus pour faire de l'influence ou m'aider à faire du bouche à oreille au début. Et du coup, j'ai utilisé la puissance de LinkedIn et j'ai commencé à faire des posts en fait en me disant pour vendre mon produit, au lieu de me focaliser sur l'approche commerciale, l'outbound, comme on dit dans le jargon, je vais me focusser sur la partie contenu, l'inbound, et en fait, je vais documenter tout ce que je sais sur le partenariat en 10 ans dans cette discipline. Et aujourd'hui, en France, il y a très peu de partnership managers. C'est un métier qui vient des États-Unis parce que là-bas, c'est déjà un énorme levier d'acquisition, le partenariat. Et du coup, en fait, j'ai vulgarisé cette discipline, le partenariat. Je l'ai mis à disposition de tous et je me suis dit, en fait, les personnes qui vont avoir compris les enjeux du partenariat et qui vont avoir les premières étapes pour se lancer vont venir après sur Richmaker. Et ça a marché sur LinkedIn parce que c'était un contenu différent et c'était un contenu généreux. Et du coup, j'ai commencé à me créer une audience LinkedIn. Et aujourd'hui, ma deuxième partie d'activité, c'est que je fais des conférences sur comment, justement, à la fois développer sa marque employeur, à la fois construire sa marque personnelle et à la fois vendre via LinkedIn. Donc ça, c'est ma deuxième activité, tu vois, qui découle de Richmaker. Et la troisième activité, elle découle à la fois de la première et de la deuxième. C'est vraiment l'effet ricochet. Et je viens de rejoindre une boîte qui s'appelle Refer. Donc, si vous allez sur les stores, que ce soit Apple ou Android, vous tapez Refer et vous allez trouver cette application gratuite qui vous permet à la fois de développer votre réseau LinkedIn, et à la fois de débloquer des opportunités via votre réseau LinkedIn. Parce qu'aujourd'hui, on sait que LinkedIn, c'est un outil surpuissant, mais on est focalisé sur les posts. Alors qu'aujourd'hui, LinkedIn, plus que de la découvrabilité, vous permet de créer des liens avec des personnes qui vont être vos ambassadeurs. Et aujourd'hui, sur LinkedIn, la messagerie, elle est tellement difficile à gérer que personne ne crée vraiment des liens. Et nous, via Refer, en fait, on vous permet d'importer votre réseau LinkedIn pour pouvoir, en fait, selon vos besoins du moment, vous cherchez à recruter quelqu'un, vous cherchez à aller chercher des nouveaux clients, vous cherchez du networking parce que vous venez d'arriver dans une nouvelle industrie, vous cherchez un nouveau job. En fait, on vous dit, synchronise ton réseau LinkedIn et, en fait, va directement solliciter des personnes pour te créer des mises en relation avec d'autres membres. Donc, en fait, on a un accélérateur LinkedIn et ça va faire que si demain, tu me dis, bah, Caroline, moi, je cherche des clients pour ma boîte. Est-ce que tu peux me présenter 5 personnes dans ton réseau? Bah, moi, j'ai confiance en toi. Je vais dire, bah, bien sûr, je peux te présenter Pierrick, Igor, machin. Et en fait, en un clic, je vais pouvoir te mettre en relation. Et à partir de là, c'est à toi de jouer. Mais on sait à quel point aujourd'hui, la recommandation, c'est un outil surpuissant à la fois dans l'acquisition et dans la conversion.
Et ce n'est pas tout. Caroline a aussi une stratégie média, notamment à travers son podcast Marketing Square, dans lequel j'ai d'ailleurs eu l'honneur d'être reçue. Mais pas seulement.
Alors, bah, mon podcast, c'est la partie média. Et en fait, ma partie média, c'est un petit peu le socle qui va irriguer toutes mes activités. Donc, il y a effectivement mes posts sur LinkedIn, mes rooms sur Clubhouse. Maintenant, il y a ma chaîne YouTube avec un short par jour. C'est mon challenge du moment. TikTok et effectivement le podcast. Mais ça, en fait, c'est toute la partie qui me permet de me délester de la partie commerciale. C'est que moi, mon parti pris, encore une fois, pour vendre mon produit, je ne parle pas de mon produit, je parle de concrètement comment est-ce que vous pouvez booster votre chiffre d'affaires. Et puis, bah, je crée de la confiance et je fais en sorte que si vous voulez passer, automatiser un peu ces tips que je donne, vous pouvez utiliser un de mes produits, que ce soit les conférences pour passer, pour accélérer votre présence sur LinkedIn via votre entreprise, que ce soit bah, trouver des partenariats géniaux pour votre business sur Richmaker ou profiter de la puissance d'une mise en relation sur FR.
C'est petit à petit, brique par brique, que la vision se construit et que l'exécution se met en place. Mais Caroline ne s'est pas réveillée comme ça un matin, avec toutes ses idées et avec tout cet écosystème en place. On rembobine un peu et on revient sur son parcours.
J'ai passé 7 ans à New York en tant qu'employée. Moi, je suis la parfaite employée. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment, tu sais, quand on dit « ouais, mais quand t'es employée, tu bosses pas pour toi », moi, honnêtement, ça me dérangeait pas du tout de bosser pour un patron. Je trouvais au contraire qu'il y avait beaucoup de confort et que c'était super d'avoir la paye à la fin du mois et toujours la même paye. Je trouvais ça hyper pratique, moi qui n'aime pas l'administratif. Et puis, bah, il y a quelqu'un en face qui te donne des feedbacks, donc je trouve que c'est une super façon de progresser. Donc voilà, moi, j'ai jamais été dans ces rêves de devenir entrepreneur. Simplement, ce qui est difficile quand t'es employé, c'est qu'en fait, tu peux pas faire des gros gaps dans ta carrière, sauf si on te donne ta chance. Et en général, on te donne pas trop ta chance. Donc en fait, la chance que j'ai eue, ma première opportunité entrepreneuriale, c'est qu'en fait, donc, je faisais du course marketing, du partenariat, et on m'a proposé de devenir country manager et spécialisé en retail, donc en distribution des magasins physiques. Et moi, j'avais toujours été dans le digital et j'avais trop envie de bosser sur la partie magasin physique. Et du coup, j'ai été country manager pour Emma et Chloé. Et en fait, je me suis retrouvée à lancer la marque toute seule avec le CEO. Et ça a été ma première aventure entrepreneuriale et j'ai vraiment fait tout dans la boîte. Donc, je faisais toute la partie B2C toute seule. Donc, gérer les magasins, gérer la force commerciale, briefer la force commerciale, la paperasse, les relevés de compte, tout ça. Donc, en fait, ça a été ma première entreprise. Et du coup, c'était mes deux dernières années à New York. Et en fait, j'ai été débauchée par un de nos partenaires qui s'appelait Saint-James, les marinières, parce qu'on avait fait un partenariat avec eux. Et ils m'ont dit, bah, Caro, en fait, nous, on voudrait te prendre à temps plein pour que tu nous développes des partenariats pour dynamiser justement notre réseau de distribution aux US, donc tous les magasins physiques. Donc, trop contente, super contrat sur mesure, je quitte mon taf et en fait, les investisseurs ont changé d'avis pendant mes démarches de visa. Donc, je pensais rentrer en France pour 2 mois pour me faire des petites vacances sympas entre copines et en fait, en plein mois de juillet, on m'appelle pour me dire que finalement, le poste ne se fera pas cette année, mais on me tient au courant pour l'année d'après. Bisous, bye bye. Donc là, ça faisait 9 ans que j'étais aux US, donc je me dis « ok ». Donc en fait, je suis en France, à Pantin, retour avec mon capital de départ, donc 80 kilos de bagages, un petit peu plus. Hein. Mais je me retrouve avec, entourée de mes valises chez mes parents à Pantin. Et là, je me dis « ok, qu'est-ce que je fais ?» Donc j'envoie des candidatures à droite, à gauche, je trouve rien. Et en fait, au final, je suis devenue DIRCOM dans le transport routier. Donc ça a fait marrer tout le monde parce que je suis passée des bijoux au transport routier. Et du coup, je suis devenue directrice communication. Et j'étais un petit peu engoncée dans mon rôle de directrice com, où on me demandait de faire des salons, beaucoup de représentations. Mais en fait, il y avait une équipe produit, il y avait une équipe commerciale. Et devine quoi ? Je vous invite à aller écouter l'épisode de Marketing Square. Ces équipes ne se parlaient pas. Et du coup, je vois des coûts d'acquisition qui sont énormes et on me dit « mais t'inquiète Caro, toi t'y connais rien, t'étais en B2C, ici c'est le B2B, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes coûts d'acquisition. » Et je fais « bah quand même les gars, ça me paraît pas terrible en termes de rentabilité. » Et en fait, comme je suis un peu un chien fou, j'ai fini par convaincre mon boss de faire un partenariat et de créer du contenu. Et on a créé un baromètre du transport routier avec un gros cabinet de consulting. Et en fait, ça nous a permis non seulement de faire baisser nos coûts d'acquisition de façon drastique, puisqu'on proposait du contenu gratuit à forte valeur ajoutée et que ça ne se faisait pas du tout ailleurs. Et en plus, de faire un petit peu bruit dans notre écosystème et régaler nos clients qui étaient là. Mais c'est génial, bravo d'avoir pondu ce baromètre. Et pour une fois, on faisait un truc un petit peu différent. Que de dire consultez notre article de blog cette semaine, la revue de presse des 5 actualités du transport routier. Donc du coup, hyper intéressant, ce premier partenariat a fait qu'on m'a dit ça te dirait de faire que du partenariat. Et j'étais là, c'est génial, c'est mon métier, on n'a qu'à faire ça les gars, parce que moi la communication c'est sympa, mais si c'est pour pas communiquer avec les autres services, très peu pour moi. Et à ce moment-là, j'ai un éclair soit de folie, soit de génie, l'avenir nous le dira. Mais je me dis, en fait, cette compétence, le partenariat, elle est méconnue. Et je me rends compte que si tu peux le faire dans le transport routier, qui est une industrie très difficile à bouger, c'est que tu peux le faire partout, Caro. Donc, essaye de faire scaler cette compétence-là. Et je me suis dit, je vais sortir l'outil que j'ai toujours rêvé d'utiliser en tant que partnership manager. C'est cet outil Reachmaker qui permet, en fait, automatiquement d'identifier le bon partenaire et de pouvoir, à terme, c'est ce qu'on construit avec Reachmaker, être un espèce de CRM version partenariat où tu vas pouvoir suivre et traquer ton partenariat et on va t'amener à lancer de plus en plus de campagnes, pouvoir les automatiser, les traquer et faire en sorte que ce soit facile et fluide pour tout le monde. Alors, mon retour en France et ma prise de poste, c'était en plein Covid. Donc, mes parents étaient hyper contents que j'ai un CDI. C'était en plus le premier de ma vie parce que ça n'existe pas, les CDI aux États-Unis. Aux États-Unis, tu fais un pas de travers, tu peux être viré. En 15 jours, tu dégages, t'es de retour en France. Donc, moi, j'avais un CDI, donc j'étais hyper contente, ma famille aussi. Et il se trouve qu'effectivement, au bout d'un moment, ça me brûle de sortir ce produit. Mais moi, je suis en plein Covid et je viens de rentrer en France. Donc, je fais pas trop la maligne, je fais profil bas. Et je me dis, je vais plutôt tâter le terrain. Et en fait, Reachmaker n'a que un an puisque moi, je l'ai développé ce projet en parallèle de mes activités de DIRCOM pendant presque 8 mois. Et ce que j'ai fait, c'est du coup faire des posts sur LinkedIn pour comprendre les croyances limitantes, les douleurs autour du partenariat, diffuser de la connaissance pour voir si c'était du contenu suffisamment actionnable, si ça avait de la valeur, si ça pouvait intéresser les gens, pour mieux comprendre aussi à quel persona j'allais m'adresser, quel allait être mon client cible. Et puis la troisième partie, c'est comme il n'y avait pas de data dans ce secteur, moi j'avais déjà un réseau pas trop mal sur LinkedIn. Donc en fait, je me suis dit, tu sais quoi, il n'y a pas de petite victoire, on part de zéro. Il n'y a aucun chiffre sur le partenariat, donc j'ai commencé à faire des sondages avant que ce soit boosté par l'algorithme. Donc, j'étais avant-gardiste, mais au moment où ça servait à rien. Et en fait, j'ai fait beaucoup de sondages où je récoltais 400, 500 votes, mais c'était les 500 premiers votes sur les partenariats où justement, je disais, pourquoi vous dites aujourd'hui qu'un partenariat ne se mesure pas ? 80% des répondants disent le partenariat ne se mesure pas parce qu'en fait, je ne le mesure pas. Et 50%, ils font ça à partir d'un fichier Excel. C'est horrible. Évidemment, tu n'as pas envie de mesurer tes partenariats si tu es encore sur Excel à la mano à rentrer les chiffres comme ça à la main. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, j'ai à la fois compris ma douleur et à la fois, j'ai créé une première base de données. Et après, ces sondages, je les recyclais en disant, j'ai préparé un livre blanc sur le partenariat. Vous vous intéressez au partenariat ? Regardez, je leur faisais de la data vis sur Canva, un truc tout nul, mais les gens étaient là, c'est génial, bravo. Et du coup, j'ai créé comme ça une stratégie de contenu où je faisais sans arrêt de la récolte de données, du repurposing, et en fait, j'ai commencé à non seulement créer une communauté, également me rapprocher de mes pairs, des gens qui disaient, mais en fait, ça me parle, Caro, moi, j'ai envie que tu me mettes en avant, je vais te mettre en avant aussi. Et là, c'est le fameux effet boule de neige que tu connais. Et au bout de 8 mois de ce travail un peu acharné où j'ai récolté beaucoup de data, beaucoup d'interviews utilisateurs où j'ai commencé à avoir une communauté, où j'ai compris mon produit, mon persona et j'ai commencé à avoir de la diffusion pour plus avoir besoin de pub. À partir de là, j'ai lancé la version bêta de Richmaker en novembre dernier et j'ai fait rentrer 1500 utilisateurs en 3 mois. Donc, tu vois, ça fonctionne et les bêta-testeurs, tu peux aller les chercher sur LinkedIn, mais par contre, il faut toujours travailler. Moi, j'ai jamais réussi à faire au talent. J'ai toujours travaillé comme une dingue pour avoir des résultats. Donc voilà, il y a 8 mois de travail acharné derrière pour la partie émergée de l'iceberg qui est très sexy et dont on parle sur YouTube.
Une expérience solide, du temps, du travail, mais aussi l'audace de lâcher son CDI pour lancer son projet. Avec un petit coup de pouce indirect lié à une vision assez fermée de son entourage pro, et avec un gros coup de pouce lié à sa rupture conventionnelle qui donne un magnifique filet de sécurité pour démarrer en tant qu'entrepreneur.
On m'a un petit peu aidée parce que dans mon entreprise, le fait que je commence à me développer sur LinkedIn a été vu d'un mauvais œil, alors que je peux te dire que du coup, ça avait, comme je faisais des posts, mais c'était le début du influence marketing sur LinkedIn. Donc autant quand je faisais un post sur, je partageais le baromètre du transport routier, tout ça, je faisais rentrer direct 50 personnes dans des webinars sur la logistique et le transport routier. Mais en fait, à l'époque, ils ne voyaient pas trop cette valeur-là. Et ce qu'ils voyaient à côté, c'est que je parlais de partenariat. Je parlais de marketing communication, j'avais commencé à créer une communauté et l'impact sur leur business était quantifiable. Mais en fait, très rapidement, ils m'ont dit « en fait, ça nous embête que tu aies cette double casquette parce que tu es directrice communication. Donc, si tu parles sur LinkedIn, tu dois parler que de notre entreprise. » Et moi, ça m'a embêtée aussi et j'étais là « bah non, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. » Et d'ailleurs, je pense, et maintenant, je donne des conférences là-dessus, donc je trouve ça génial, mais je pense que c'est pas du tout la bonne approche à avoir de parler comme une page entreprise depuis son profil personnel. Et aussi, j'avais envie de développer plein de choses et on m'a dit « ça marchera jamais ». Par exemple, je leur disais « il faut faire un podcast parce qu'il n'y a pas de podcast sur le transport et la logistique et je pourrais l'animer. » Et on m'a dit « bah en fait, t'as pas les compétences et puis tu fais de la communication. Donc, ton travail, c'est d'aller chercher des salons professionnels et créer des supports de communication. Et tu pars un peu dans tous les sens et voilà. Et du coup, mon entreprise, j'ai eu une super équipe, mais juste, tu vois, le transport routier, c'est une industrie qui va mettre du temps à se digitaliser et je pense que mon côté chien fou, mon côté j'ai envie de faire plus, ça a été plutôt vu comme quelque chose qui dérangeait un peu le codir parce qu'on ne veut pas faire un podcast tout de suite, parce qu'une directrice com qui a une grosse influence sur LinkedIn, on se dit que peut-être c'est pas cohérent parce qu'elle a plusieurs industries à la fois. Voilà, donc en fait, j'ai fait une rupture conventionnelle et ça m'a donné, pour ceux qui nous écoutent, hein, de façon très transparente, il faut le dire aussi, hein, quand on se lançait comme ça sans filet, je ne me suis pas lancée sans filet, j'ai eu la chance que mon entreprise me permette en fait d'arrêter mon contrat en très bonne entente parce qu'en plus, ça a été parmi les premiers utilisateurs de Richmaker. Donc tu vois, ils ne m'ont vraiment pas mis des bâtons dans les roues, au contraire, et j'ai eu cette sécurité financière pour me lancer.
A priori, c'était le bon move. On récapitule et on voit ce que ça donne aujourd'hui.
Mes 3 activités, donc j'ai Richmaker où je suis CEO, donc m'occupe de tout avec mon cofondateur qui est génial, qui s'appelle Anthony et qui est CTO. Donc on est 3 dans l'équipe, on a une alternante qui gère toute la partie content management. Du coup, sur mes activités de consulting, j'ai une autre boîte où là, je fais des conférences et exceptionnellement, sur des projets coup de cœur, je fais un petit peu de consulting individuel. Mais voilà, juste au cas où, je prends très, très peu de ces demandes-là. Et la troisième brique, c'est de temps en temps des missions grosses parce que je pense qu'il faut continuer à être sur le terrain. Donc, on va dire que j'en fais une tous les 3 mois. Et du coup, les missions grosses, en général, c'est du influence marketing sur LinkedIn, mais pas sur mon profil. Du coup, mais vu que c'est des sujets que je connais bien, on me sollicite pas mal pour comment est-ce qu'on fait justement concrètement en mettant les mains dans le cambouis pour aller mettre en place des automations de prospection qui marchent bien, des programmes de employee advocacy sur le terrain. Donc là, on a vraiment une partie consulting très orientée LinkedIn et parfois grosse, parfois je construis des plans de com. Voilà, ça peut être un petit peu au sens large. Et la troisième brique, c'est Refer, du coup, sur laquelle je suis vraiment CMO. Et l'idée, c'est Community Builder. Et donc là, en fait, je m'occupe de faire ce qu'on appelle le go-to-market, le GTM dans le jargon. En fait, on est en train de mettre cette application sur les stores et de tester, itérer pour voir comment est-ce qu'elle pénètre sur le marché, quelle est notre client cible. Donc en fait, je fais la partie que je vous ai décrite chez Richmaker il y a 1 an. Je suis en train de le faire pour refaire un nouvel acteur. Comment est-ce que ces activités s'imbriquent? Moi, vous avez compris, ma spécialité et ma passion, c'est de créer des écosystèmes. Et en fait, ces 3 écosystèmes sont ultra synergiques. parce que pour le coup, bah, souvent mes clients Richmakers sont des utilisateurs refer, et c'est aussi souvent des gens qui ont des enjeux autour de LinkedIn et qui vont me dire, bah, en fait, Caroline Mignot, j'aime bien son approche, je la recommande à mon entreprise. Et en fait, c'est très, très rigolo, et c'est comme ça qu'on crée une communauté. C'est qu'en fait, entre mes trois produits, j'ai vraiment les mêmes hardcore users et power users, et ça, c'est trop, trop cool. Donc voilà, je pense que si tes activités font trop le grand écart, c'est compliqué, mais si tu arrives à créer une vision commune, moi, ma vision commune, c'est qu'en fait, j'aide les gens à mieux collaborer pour atteindre une croissance naturelle sans dépenser d'argent en pub. Tu vois, à partir de là, la Messédite, ça regroupe vraiment toutes mes activités. Donc, trouvez votre « why », même si on déteste ce mot parce qu'il est trop utilisé. Ayez une vision commune et vous allez voir que vos activités vont servir les unes aux autres et créer des cercles de croissance.
Bim, le « why ». Ok, on l'a trop entendu. N'empêche qu'en une phrase, Caroline regroupe la mission commune de ses différentes activités. Et vu comme ça tourbillonne dans sa tête, il y a moyen que de nouvelles briques s'y ajoutent prochainement.
J'ai pas voulu m'étendre sur la partie refer parce qu'il y a mille choses à dire, on est en train de construire le produit, mais ce qu'on veut créer, c'est la première économie de la mise en relation. En fait, au sein de la créateur économie, on est persuadé qu'il y a une branche qu'on n'a pas encore senti venir, c'est tous les connecteurs comme toi et moi, à qui on demande toute la journée, sur LinkedIn ou ailleurs, est-ce que tu connais quelqu'un qui ? Je cherche à recruter, je cherche du boulot, je cherche une agence qui fait ça, est-ce que tu connais quelqu'un ? Et aujourd'hui, nous les connecteurs, on ne tire pas profit de ces mises en relation qu'on fait, qui pourtant sont un vrai travail et sur lesquelles on engage notre responsabilité et notre réputation. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire avec Refer, c'est bâtir la première économie de la mise en relation, où en fait, à chaque fois que tu fais une mise en relation réussie, tu es rémunéré en crypto par la personne qui émet la demande. Et donc, cette crypto-là, tu peux soit la trader, soit la retirer, soit la réinvestir dans Refer en disant, bah, moi, demain, là, je cherche un graphic designer de façon urgente. Je mets 500 Refer coins à la personne qui va me procurer deux ou trois mises en relation qualifiées. Et ça, pour moi, ça va être un truc de ouf. Et un dernier projet sur la NFT, parce que ça t'intéresse, et que tu m'as dit, c'est OK, Caro, tu peux partir dans tous les sens, c'est le projet du podcast. Je vais tester avec une boîte qui s'appelle Uncut, U-N-C-U-T, en fait, de faire de la NFT à partir de mon podcast. Et eux, ce qu'ils vont permettre de faire, en fait, c'est de découper des moments de podcast. Et vous savez, bah, pour ceux qui rattrapent un peu les wagons sur le Web3, l'idée du Web3, grosso modo, c'est aujourd'hui, on va pouvoir monétiser toute la valeur de ce qu'on crée. Donc, tout ce qu'on crée, ça vous appartient. Donc, en fait, la prochaine fois que vous mettez une image sur Facebook, en fait, c'est comme si vous vendiez cette image gratuitement, ce JPEG à Facebook. Bah, maintenant, ce JPEG, c'est un NFT et vous allez pouvoir, en fait, bah, le valoriser et le monétiser. Et ben, on va pouvoir faire pareil sur les podcasts. Le podcast qu'on met sur un serveur, Apple Podcast, c'est de la valeur qu'on ne touche pas directement. Et en fait, vous allez pouvoir permettre à vos auditeurs d'acheter un moment du podcast via une contrepartie. Ça peut être un coaching individuel, ça peut être une rencontre, un événement privé, ça peut être un merchandising collector. Pardon, c'était un peu nul comme idée, mais je suis un peu au pied levé. Vous avez compris. Donc voilà, tout ce que je peux te dire sur cette partie-là dans mes projets en cours.
Ça te donne des idées ? Si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, le partager à tes potes et t'abonner pour être notifié quand un nouvel épisode débarque. Dans le prochain, on accueillera la big boss d'une asso liée à l'éducation. C'est sur ce magnifique teasing que je te quitte et que je te dis à très bientôt.